Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo.
Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum.
Gloria tibi, Domine.
Jésus disait aux douze apôtres, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère, en aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Que ton évangile, Seigneur, répande son parfum et sa lumière sur toute l'orbe de la terre. Qu'elle dépose dans toutes les âmes pures, les germes et les sources d'eau jaillissante de la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, je vous remercie tous, hein, au nom du ciel, au nom de Dieu, au nom du Seigneur, d'être là pour la mémoire du roi et la mémoire des martyrs de la Révolution. En même temps, en fait, bien sûr, nous fêtons la mémoire de tous les martyrs, au fond. Mais c'est vrai, le fait de se regrouper pour... ce qui représente le martyr à l'état pur, le martyr à l'état exemplaire, ça représente quelque chose. Bien sûr, à chaque fois qu'on fait un martyr, on devrait faire quelque chose comme ça. On devrait, vous voyez, le martyr de Saint Paul, le martyr de Saint-Étienne, par exemple. Voilà, pour le martyr. On ne connaît pas bien, c'est vrai. On n'a pas été très. Nous sommes pas une génération qui a été très informée, plus qu'informée. On n'a pas été. Le roi Louis XVI n'est pas un intime. Nous l'aimons bien. Nous savons bien que c'était un saint homme, que c'est un homme de Dieu. Mais tous ces textes des papes, les textes du ciel, les textes de la Vierge Marie à propos du roi Louis XVI, on ne les connaît pas. Ceux des saints, ceux de l'Église au fond chrétienne, on ne les connaît pas du tout. On connaît juste une petite propagande où on dit bon bah que ce roi n'était pas très adapté, timide, ce qui n'est pas vrai du tout. Ce qui n'est pas vrai du tout, c'était un homme d'ailleurs, et il est mort martyr, donc beaucoup plus jeune, on l'imagine assez âgé à cause de sa prestance. Mais en fait, il est mort, il n'avait pas 40 ans, il était mort presque quasiment à l'âge du Christ. Le Christ est mort à l'âge de 36 ans, et lui, il est mort martyr à 38 ans exactement. Hein? Et vous avez l'image que vous avez ici sur vos feuillets, c'est une image d'une icône où là, il venait d'être, il avait environ 21 ans, ou 20 ans, ou 21 ans, il venait d'être proclamé roi de France, il est établi sur le trône. Et c'est quelqu'un qui a toujours, qui a fait les plus grandes choses qui n'ont jamais été faites pour le royaume et pour le pays. C'est d'ailleurs en voyant cela que les ennemis de Dieu, il faut bien le dire, les ennemis de l'Église se sont jurés dès le départ, très vite, hein, ils se sont rendus compte que c'était un roi qui allait mener la France au sommet de l'union avec la divinité de l'Église en particulier. Et la justice, la paix, la prospérité allaient, avec si on ne l'empêchait pas, faire que la chrétienté allait se répandre dans le monde entier à une vitesse spectaculaire. Alors j'ai envie de vous lire, faire un sermon sur le roi Louis XVI. On peut toujours faire un sermon sur le roi Louis XVI, mais c'est beaucoup mieux de lire les textes, vous comprenez, parce que c'est des textes qu'on ne connaît pas. Et moi, bien sûr, aujourd'hui, vous pouvez les lire, vous pouvez aller sur Internet, vous allez sur le site catholique du net ou sur le site du Vatican, etc. Vous verrez tout ça. Mais j'ai fait le travail pour vous, donc vous avez ici... d'abord, tout de suite, dans l'année où il est passé, il a donné sa vie. Il ne faut pas oublier que s'il a donné sa vie, c'est uniquement, s'il est resté d'ailleurs sur le trône de France pendant la Révolution, c'est lui qui a engagé la démocratie, c'est lui qui a voulu qu'il y ait le peuple, c'est lui qui a voulu que le roi et le peuple soient ensemble un seul cœur, une seule royauté. C'est lui qui a voulu qu'il y ait des corporations, un principe de subsidiarité. C'est lui qui a voulu qu'il n'y ait pas cette espèce de grande injustice incroyable qu'une seule classe de la société opprime toutes les autres. Et il a eu contre lui finalement les gros bourgeois de la société, qui étaient eux-mêmes affiliés à travers des ateliers à la City de Londres. Et d'autre part, l'hyper-aristocratie très très extrémiste, en fait très très tyrannique. Et ce sont ces deux-là qui sont associés pour proclamer sa mort. Donc il est mort martyr par les deux ailes de l'antichristianisme le plus pur. Alors le pape a fait, donc tout de suite l'année qui a suivi, a fait une homélie pour le jour pour vénérer sa mort. Le pape Saint-Pie VI. Vénérable frère, comment notre voix n'est-elle point étouffée dans ce moment par nos larmes et nos sanglots? N'est-ce pas plutôt nos gémissements, par nos gémissements, que par nos paroles qu'il convient d'exprimer cette douleur sans bornes que nous sommes obligés de manifester devant vous en retraçant le spectacle que l'on a vu à Paris le 21 du mois de janvier dernier? Alors, à 10h, le roi très chrétien, Louis XVI, a été condamné au dernier supplice par une conjuration impie. Et ce jugement s'est exécuté. Nous vous rappellerons en peu de mots les dispositions et les motifs de la sentence. La Convention nationale n'avait ni droit ni autorité pour la prononcer. En célébrant à travers ce crime et ce martyr comme le triomphe de Voltaire, la chute de l'autel et du trône, on exalte la renommée et la gloire de tous les écrivains athées, haïssant Dieu, impies comme autant de généraux d'une armée victorieuse. Après avoir ainsi entraîné par toutes sortes d'artifices une très grande portion du peuple dans leur parti, pour mieux l'attirer encore par leurs œuvres et par leurs promesses, ou plutôt pour en faire leur jouet dans toutes les provinces de France, les factieux se sont servis du mot spécieux de liberté et ils en ont arboré les trophées et ils ont invité de tous côtés la multitude à se réunir sous les drapeaux d'une liberté qui n'en est pas une. C'est bien là véritablement une liberté philosophique qui tend à corrompre les esprits liberté de dépraver les mœurs, liberté de renverser toutes les lois, liberté de renverser toutes les institutions saines, justes et pacifiques. Aussi fût-ce pour cette raison que l'Assemblée des prêtres de France témoigna tant d'horreur pour une pareille liberté, quand elle commença à se glisser dans l'esprit du peuple par les maximes les plus fallacieuses. Ce fut encore pour les mêmes motifs que nous croyons nous-mêmes, en tant que pape de l'Église catholique, devoir la dénoncer. On avait décidé et décrété que chacun était libre d'exercer la religion qu'il choisirait, comme si toutes les religions conduisaient au salut éternel. Et cependant, la seule religion catholique fut proscrite. Seule, elle a vu couler le sang de ses disciples dans les places publiques. Seule, elle a vu couler son sang innocent et juste et saint sur les grands chemins et dans leur propre maison. On eût dit qu'elle était devenue un crime capital. Ils ne pouvaient trouver aucune sûreté dans les États voisins où ils sont venus chercher asile. Personne ne peut nier que la même cause n'ait amené la mort funeste du roi Louis XVI. On s'est efforcé, il est vrai, de charger ce prince de plusieurs délits d'un ordre purement politique, mais le principal reproche qu'on ait élevé contre lui porte sur l'inaltérable fermeté avec laquelle il a refusé d'approuver et de sanctionner le décret de la déportation des prêtres. La lettre qu'il écrivit à l'évêque de Clermont pour lui annoncer qu'il était bien résolu de rétablir en France, dès qu'il le pourrait, le culte catholique. Tout cela ne suffit-il pas pour qu'on puisse croire et soutenir, sans témérité, que Louis fut un martyr de Dieu et de l'Église, de sorte qu'il paraît difficile que l'on puisse rien contester de la gloire de son martyr, comme catholique et comme fils de Dieu. Ô jour de triomphe pour Louis XVI, à qui Dieu a donné et la patience dans les tribulations et la victoire au milieu de son supplice. Nous avons la confiance qu'il a heureusement échangé une couronne royale toujours fragile et des lys qui se seraient flétris bientôt contre cet autre diadème impérissable que les anges ont tissé de lys immortels pour lui. C'est beau, la parole d'un pape. C'est quelque chose, vous voyez, mais c'est du souffle, c'est évident. Mais c'est pas parce que ça a du souffle que je vous l'ai dit, c'est parce que l'Église, elle, n'a de cesse d'essayer de redonner l'espérance, l'amour, la vérité et la lumière. Qu'est-ce qu'on a reproché, au fond, à notre frère, le saint roi Louis ? Qu'est-ce qu'on lui a reproché ? On lui a reproché de ne pas avoir fait ce que les rois d'Angleterre avaient fait. Les rois d'Angleterre ont accepté que leur peuple et leur justice, leur manière de gouverner, se séparent de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et s'affilient à la puissance de la bête. À tel point qu'encore aujourd'hui, vous savez bien, Barbe Bleue, Henri VIII, etc., il a fallu ça a été exactement le même processus que pour Jacques Ier Stuart, a été effectivement lui aussi jugé de manière inique parce qu'il avait refusé cela. Et donc les rois d'Angleterre, depuis que les Stuarts catholiques ont été donc assassinés par leur peuple, les rois d'Angleterre sont devenus des rois qui sont affiliés à Satan. Encore aujourd'hui, vous le savez, c'est officiel, la reine d'Angleterre, chaque année, quand elle va visiter la City à Londres, vous savez, qui est le domaine des Illuminati, vous savez, elle doit se mettre à genoux avant de pouvoir rentrer dans la City, devant le portier, c'est-à-dire celui qui a le grade le plus bas de tout cet état dans l'état de Londres qu'on appelle la City. Elle doit se mettre à genoux pour manifester que la reine d'Angleterre et le peuple d'Angleterre tout entier est en dessous du plus petit de la communauté Illuminati, vous savez, la pieuvre noire, vous savez, ceux qui sont affiliés à Satan. Le roi Louis XVI n'a pas voulu de ça pour la France. Et il est resté courageusement et avec sa jeunesse, avec la splendeur de son intelligence, sa diplomatie, il est resté jusqu'au bout. Ce qui a permis effectivement que la France ne tombe pas dans cet extraordinaire piège qui a été celui dans lequel sont tombées les autres monarchies voisines. Il y a beaucoup de choses à dire à propos du roi Louis VII par rapport à ses vertus chrétiennes, ses vertus catholiques. Mais je me régale avec vous de lire encore quelques petits passages. Pas du pape, il y a beaucoup de papes qui ont parlé. Hein. Grégoire, j'aime bien le pape Grégoire IX, parce que le pape Grégoire IX avait dit, à propos de la royauté de France, vous savez que les rois de France sont des successeurs, sont des successeurs en ligne directe du roi David. Comme Saint-Joseph qui lui aussi était roi d'Israël. Roi d'Israël, à l'époque du Hérode le Grand, le véritable roi d'Israël, légitime. Ceux qui connaissent les légitimistes, le roi légitime d'Israël à l'époque du Christ, c'était Joseph, fils de Jacob, fils de David. C'était lui, le roi d'Israël. Un roi caché. Et depuis la martyre de la Révolution, nous avons désormais des rois cachés. Nous avons, dans le christianisme, nous avons dans notre Église, nous sommes des rois cachés, nous sommes un sacerdoce royal, un sacerdoce caché. Nous avons hérité de cette royauté qui était visible, pour qu'elle devienne visible à travers notre royauté invisible. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très grand, et beaucoup de paroles ont été prononcées par le ciel. Je vais en prononcer quelques-unes. Notre-Dame de la Salette, qui est venue apparaître en France. Voilà ce qu'elle dit à propos de Louis XVI. Le grand triomphe de l'Église, c'est la Vierge Marie, hein, c'est une apparition reconnue par l'Église quand même, c'est pas une petite histoire. Le grand triomphe de l'Église se verra sous le pasteur angélique avec l'ange terrestre du roi martyr. Bon, évidemment, vous n'entendez peut-être pas le langage des apparitions, mais vous voyez, le roi Louis XVI, qui est très vénéré, il y a des milliers de messes qui sont célébrées aujourd'hui hein, pour le roi de Louis XVI, pour le vénérer, pour l'aimer, pour avoir quelque chose de ses mérites. Il est appelé aussi le roi angélique. Parce que depuis qu'il est mort, il a gardé le sceptre. Ce sceptre n'a jamais été passé à un autre depuis. C'est le roi de France qui est resté roi de France le plus longtemps de toute l'histoire du monde. Parce que depuis, c'est encore lui le roi. Je vous donne un exemple. Par exemple, le pape Jean-Paul II, c'est quand il était mort, j'ai appris ça, je ne savais pas avant. Le pape, quand il meurt, on dit il n'est plus le pape, c'est fini, il ne peut plus gouverner l'Église, et bien c'est pas vrai. C'est lui qui a encore le pouvoir de clé de l'Église. Même s'il est mort, c'est lui qui a le pouvoir des clés. C'est lui qui a le pouvoir de lier et de délier, au ciel et sur la terre. Ce qui va lier sur la terre est lié dans le ciel. Ce qui est délié sur la terre est délié dans le ciel. Et ce pouvoir des clés du Saint-Père, il n'est transmis que à l'ouverture du conclave pour l'élection de son successeur, le conclave va recevoir donc ce pouvoir des clés du Saint-Père et va ouvrir une grâce céleste qui va faire que le pontificat va se transmettre avec la grâce de Dieu venue d'en haut. Vous savez, ça est bien pour la royauté, la royauté de David, la royauté qui ne connaît l'histoire de France. Donc on sait très bien que la royauté, la seule royauté du monde, l'unique royauté du monde qui est dans la lignée de David, la royauté de droit divin, elle a été toujours manifestée même par ce fameux signe de la mésange qui est venu apporter une ampoule avec de l'huile miraculeuse dedans. Et c'est ainsi Clovis qui a sacré le roi des Francs. Et cette ampoule se vidait toujours aux trois quarts, et elle se remplissait miraculeusement de génération en génération. La Révolution ne s'est pas contentée de tuer à peu près 20 millions de Français sur 40 millions. N'oubliez pas qu'il y a eu un recensement un peu tout de suite, un peu avant l'accession de Louis XVI sur le trône. Il y avait exactement 39 millions et demi d'habitants en France. Et il y a eu un recensement après la Révolution, à l'époque de Napoléon Ier, et il n'y avait plus que 20 millions. Total, 20 millions de Français sont morts, ont été assassinés. Et les femmes, les enfants. On va bientôt faire un chemin de croix là, au mois de mars. Là, j'en fais partie de ceux qui vont faire ça. Un chemin de croix. On va dresser plus de 300 croix dans les endroits de Tours jusqu'à la Vendée où les gendarmes de la République sont arrivés et ont massacré systématiquement tous les enfants, tous les bébés, toutes les femmes, tous les vieillards à la baïonnette. Sans exception dans les villages. C'était, il ne faut pas oublier quand même que la Révolution, c'est pas très joli. Il a fallu détruire l'Église catholique dans sa base et dans son sommet, dans ses prêtres. Il y a eu vraiment une rage de luciférienne contre la France catholique. Et on ne le dit pas assez parce que ça quand même, c'est quand même des chiffres officiels. Jamais, 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 dans aucun pays, un peuple n'a tué la moitié de ses habitants. Et nous le fêtons, nous, comme une grande victoire. Nous le fêtons comme une grande victoire, parce que tous ces gens ont donné leur sang en France, avec la joie du martyr. Et le pape a canonisé tous ces martyrs de la Révolution. Ils ont été canonisés. On commence à les canoniser par grappes entières. Donc, j'ai pas besoin de vous convaincre. Je sais bien que vous êtes tous déjà convaincus, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Alors, je laisse Saint-Césaire d'Arles, je laisse le curé d'Ars. Si, quoi, pourquoi le curé d'Ars, il a dit quelque chose de sympathique. Il a dit Dieu viendra en aide. Lui est arrivé après la Révolution. Il est devenu curé après la Révolution. Vous savez bien qu'il est arrivé à Ars. Ça faisait 20 ans que les prêtres avaient été guillotinés. Donc les gens n'avaient pas trouvé de prêtre depuis 20 ans quand il est arrivé. Hein. C'est là qu'il a dit, vous enlevez un prêtre dans un village, les gens vont adorer et vont adorer les bêtes. Parce que les gens, c'est ce qu'ils faisaient. 20 ans sans prêtre, les gens adorent les bêtes. Je passerai là-dessus. Moi aussi, j'ai vu ça, de mes yeux. Vous enlevez un prêtre dans un village, malheur au village. Vous enlevez un saint dans une famille, malheur à la famille. Alors, vous voyez, il dit ça. Dieu viendra en aide, les bons triompheront lorsqu'on annoncera le retour du grand roi. Et effectivement, les grandes prophéties de l'Église catholique, Saint Césaire d'Arles, Saint Césaire le Grand, les papes, Saint Pie VI, etc., annoncent bien sûr que le roi Louis XVI est l'ange qui garde la France dans la liberté de conserver la foi, la charité et les sacrements. Il est l'ange du ciel, il continue à gouverner son peuple, il a donné son sang pour ça. Et à un moment donné, je prends un détail, par exemple, ça a l'air idiot, mais c'est peut-être pas idiot. À un moment donné, on dit, allez, hop, on va vous mettre le bandeau, et puis après, on vous coupe la tête. Donc, il a dit, non, mais pas de bandeau. Alors, son confesseur lui a dit, si, acceptez le bandeau. Jésus, on lui a mis un bandeau au moment du couronnement d'épines. Ah, il a dit, si le Christ a pris le bandeau, je prends le bandeau parce que c'est ce qu'il a fait que je veux faire. Il était sur l'échafaud quand il a dit ça. Mais tout ce qui en lui était très très proche. Je vis la prophétie de ce saint de Lyon. Je vis un homme d'une figure resplendissante comme la face des anges monter sur les ruines de Sion. Une lumière céleste descendait sur sa tête comme autrefois des langues de feu sur les apôtres. Les enfants de Sion se prosternant à ses pieds, il les bénit. Et je veux venir de Jérusalem, c'est-à-dire du ciel, hein, un jeune homme remarquable monté sur un lion, le lion représente la royauté, tenant une épée flamboyante à la main, la glaive de la transverbération du cœur, un véritable martyr chrétien. Le coq chantait devant lui, la République est obligée de se prosterner, et le lion mit le pied sur la tête du dragon. Et sur son passage, tous les peuples s'inclinaient, car l'Esprit de Dieu était en lui. Très belle parole sur le roi Louis XVI. Très belle parole, que j'aime beaucoup. Et vous avez encore ici une autre qui qui, vous savez, il s'agit d'une stigmatisée, elle n'est pas canonisée, mais c'était quand même la stigmatisée un peu. Moi, j'aime bien Marthe Robin, elle n'est pas canonisée, je l'ai connue. Et le pape Pie XII aimait beaucoup Marie-Julie. C'est une stigmatisée, elle a dit des choses sur le roi Louis XVI extraordinaires. Mes enfants, il n'y a plus que deux choses qui dévorent la pensée de ces hommes d'autorité gouvernementale. C'est l'Église et c'est le roi. Voilà les deux choses qui obsèdent ceux qui tiennent la République. Enfin, ceux qui tiennent la République au sens anglo-saxon. Comprenez ce que je veux dire. La République des banques, la République Illuminati, la République des ateliers, la République occulte, la République anti-chrétienne, la République des Lumières, la République de... Bon, ces deux choses animent au fond de leur cœur une passion que rien ne pourra ternir. Et cela parce que je destine mon serviteur exilé, il s'agit du roi Louis XVI, qui est exilé de la terre, à rentrer sur la terre de sa naissance. L'univers serait rangé pour empêcher ce passage triomphant. Dieu a des ailes, il a ses puissances, et sans effort, il le rendra maître et sauveur. Là où le serpent porte la dent, la morsure est ineffaçable. La dent du serpent déchirera la réputation, l'honneur, et la royauté de l'ami du Sacré-Cœur. Mais sa morsure ne l'atteindra pas. Elle ne fera que parcourir les régions depuis la France jusqu'à l'étranger, et il faut que ce coup passe et que la violence décharge l'écume de sa rage. Le mal a fait un long chemin en immense profondeur. La calomnie, c'est terrible, hein ? C'est facile, hein, de ridiculiser quelqu'un. Nul ne peut le réparer sans lutte. Il ne reste plus pour vous, ô France, que cet effort. Tout est là, dans cet effort que je vous demande. C'est Jésus qui parle à travers elle. Oui, je vais me disposer à entrer sur la terre qui fut le trône de Saint-Louis. Cette même terre, je la prépare au méprisé des hommes. Regardez comme incapable, parce qu'il est chrétien. Et uniquement à cause de cela, et qu'il croit à son retour sur la terre de son berceau. Il sait que même s'il meurt, il reviendra. Un peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, même si je vais au ciel, je reviendrai faire du bien sur la terre. Ses épaules portent comme les miennes le manteau de l'abomination, ainsi que celle de ceux qui espèrent le voir ramener la paix. Je le vois venir de bien près, de la terre des martyrs. Sur le sol où l'Église a tant de fois prononcé par la bouche de l'Esprit Saint de la terre, le nom de tant de chrétiens jugés dignes de monter sur les autels, c'est-à-dire de ceux dont la sainteté a été reconnue. Certes, celui qu'on appelle l'enfant du miracle, ce royaume n'a connu que son nom. On connaît le renom de Louis XVI, mais on ne connaît rien d'autre que son nom. Mais plus tard, il connaîtra le fond de son cœur, et cette connaissance est réservée pour les grandes époques. Peuple fidèle, on va mettre ça sur Internet, hein. Sur la télé, il faudra proclamer ça partout. Il y a au ciel un saint. C'est Jésus qui parle à travers ses stigmatisés. Louis, à qui le ciel réserve une grande mission. L'immense miséricorde a réservé un protecteur, mais enfant de la victoire, il faudra payer, certes, sur toutes ses souffrances et tous ses sacrifices. Ce prince de la terre digne d'honneur est louable à cause de sa grande confiance et de la grande foi qu'il a dans son attente, à cause de la blancheur qu'il aime et préfère à toutes les autres couleurs. Sans que son cœur s'y attente, mais il ne voyait pas sa propre grandeur dans son humilité parfaite. Donc sans que... Sans que son cœur s'y attente, le Seigneur lui réserve de bien grandes paroles de grâce et de puissance. Avant que la langue reste sans mouvement, avant son repos tout entier, le Seigneur a de grands envois à laisser tomber de sa bouche, sous la main de ses serviteurs, pour celui qui n'est point appelé de Dieu en vain, qui n'est point acclamé par un nombre considérable.
triomphateur des couleurs impures qu'on lève dans la France pour tuer et faire le meurtre de la France tout entière et faire flotter dans toute sa longueur et sa largeur. Vous, amis du grand prédestiné, vous porterez à sa rencontre la blancheur que son cœur aime tant. Le souffle du vent fera flotter sa bannière. Et de loin, ses yeux mouillés, de loin du ciel, ses yeux mouillés de pleurs d'action de grâce, verront la bannière flotter sur son tombeau, le tombeau de ses glorieuses et religieuses funérailles. C'est ce que nous faisons dans la messe d'aujourd'hui, partout en France. Je peuplerai la terre de fleurs, c'est-à-dire de cœurs purs, généreux, repentants qui aimeront la Sainte Église, le Saint-Père et le Roi. Je bénirai cette terre et mon peuple échappé. Je donnerai à la France une génération nouvelle. Ils grandiront dans ma grâce et ils suivront le règne et le royaume et la sainteté d'un roi très pieux qui, par ses vertus, sera un des plus beaux ornements de la France. On pourrait continuer ça comme ça longtemps, hein, mais vous n'êtes pas venus pour. Nous ne sommes pas venus pour entendre une parole forte, profonde, énigmatique, mais nous sommes venus pour nous unir. Hein, nous unir au ciel, unir le ciel à la terre, unir la terre au ciel. Je voudrais terminer quand même avec une petite parole de personnelle, disons. Un texte que je n'ai pas. Moi, je n'ai pas d'apparition, vous savez. Vous me connaissez, la plupart d'entre vous, je sais que vous me connaissez un peu. Je n'ai pas d'apparition, je n'ai pas d'inspiration, je n'ai pas d'écriture automatique, je ne vais pas voir les voyantes, mais je crois, je sais plus exactement que la France et le monde. Dieu leur demande de se mettre debout aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est pas à cause de ce qui est inscrit là-bas chez les Incas, à propos de l'année dans laquelle nous sommes rentrés. Mais c'est pas à cause de ça. C'est parce que l'humanité a besoin de la France. L'humanité a besoin de la royauté. L'humanité a besoin de la sainteté, ça veut dire. L'humanité a besoin du sacerdoce. Le sacerdoce est royal. Le sacerdoce du baptisé, il est royal. C'est-à-dire qu'il est à l'intérieur de nous, que nous sommes transformés en une flamme brûlante d'amour, un amour victimal éternel. Et tant que nous n'avons pas dans notre prière, avant de dire un Notre Père, avant de dire un « Je vous salue Marie », si auparavant nous n'avons pas investi à l'intérieur de nous cet holocauste brûlant d'amour qui fait que nous sommes ce feu d'amour, cet amour éternel, un amour victimal éternel, si je ne suis pas entièrement, totalement un amour victimal éternel, je ne suis pas français, je ne suis pas un fils du roi. Je ne suis pas un fils du roi d'Israël. Je ne suis pas non plus un fils du nouvel Israël. La France, comme l'a dit le 5 ou 6 papes, la France est le nouvel Israël. La nouvelle Jérusalem spirituelle de la Vierge au milieu des peuples. Et les Français qui vivent de cette... qui sont embrassés avant de commencer une prière, avant de communier... avant de faire un pas pour embrasser son prochain en lui pardonnant, s'il n'est pas embrasé par cette présence, cette brûlure, cet Esprit Saint, cette royauté, cet amour victimal éternel qui fait qu'il est lui-même identifié au Christ, celui-là n'est pas français. Et il ne peut pas réaliser la vocation qui est la sienne dans les 2 années qui viennent. Alors à nous aujourd'hui de demander un petit peu au Seigneur, à ses saints, hop, allez, de nous laisser prendre la bannière, de la prière, de l'espérance, parce qu'on sait parfaitement, on sait parfaitement que tout, c'est ce truc un petit peu pénible, exaspérant, injuste, va être bâti.
liée. Il ne restera plus rien. Le monde nouveau arrive.
Il faut l'anticiper. Et nous sommes là pour ça. Pour nous y préparer, pour en être absolument certains. Parce que les saints ne se sont pas trompés, le pape ne se trompe pas, le ciel ne se trompe pas, la Vierge ne se trompe pas. Et nous non plus.
Encore une fois, je vous demande pardon pour ceux pour qui sont venus pour une opération, j'allais dire, liturgique. Un petit peu expédié, c'est pas notre style.
Il n'y a pas de prière universelle. Nous allons célébrer, si vous voulez bien. Après, nous allons nous recueillir en écoutant les chants.
Thank you. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église
pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
J'ai des regards pleins de bonté, Seigneur, sur l'offrande que nous te présentons. Qu'elle soit sanctifiée par le Saint-Esprit et mette dans nos cœurs cet puissant amour qui est à tous tes martyrs à surmonter leur souffrance. Nous te le demandons encore et encore par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Dominus vobiscum. Domino Deus nostrum,
dignum et justum est,
vere dignum et justum est, tecum et salutare, nos tibi sancta, tibique gratia sacia, tibique sancta, omnipotens et eterne Deus, qui bonitate hominum conditisti ac justitia, damnatum repelasti, per audem Christum, Dominum nostrum, per quem majestatem tuam, laudant angeli, adorant dominationem, tremunt potestatem, celice laurumque virtutem, ac beata seraphim socia exultatione concelebrant, cum quibus nostras voces admitti iubea te precamu, supplici confessione dicentem. Notre évêque en ce lieu, l'ensemble des évêques, tous ceux qui veillent avec fidélité sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de l'Église tout entière, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux admirable, sanctissime.